mais le sanglier se mouvait en tel état qu'il n'y avait si hardi chien qui pût l'atteindre, ni si hardi veneur qui sût le coincer. En entendant le sérieux avec lequel Andreas prenait son rôle de conteur, y mettant la forme et le ton, Robin ne put s'empêcher de sourire. Mais il le fit en cachette, pour ne point heurter son maître qui, assurément, y prenait grand plaisir. À donc vinrent chevaliers et écuyers, mais il n'y avait non plus parmi eux si hardi qui sût le compromettre. À donc vint le comte qui cria à haute voix « Et comment ce fils de truie nous ébahira-t-il tant que nous sommes ?» Lors, quand Raymondin ouït ainsi parler son oncle, il eut grande vergogne et descendit de dessus le coursier à terre, l'épée au poing, et s'en alla vitement vers le sanglier pour le ferrer d'un coup par grande haine. Mais le porc se tira sous lui et le fit choir à genoux avant que de s'enfuir de nouveau. Résigné, le comte s'écria « Beau neveu, laisse cette chasse !» Mais Raymondin, qui était échauffé à son tour, se mit à suivre la bête âprement. Et alors le comte le rejoignit, et tant chassèrent ensemble qu'il fut obscure nuit, plus obscure encore que celle-ci. « Et comment une nuit peut-elle être plus obscure que celle-ci ? » demanda Robin moqueur. « Mais tais-toi donc, elle peut l'être pour l'intérêt de l'histoire, et puis c'est tout. » Ainsi donc était le comte Emery et son neveu Raymondin, épée au poing. Quand ils virent à nouveau ce sanglier, merveilleux et horrible, moult agité, venir tout droit à eux. « Monseigneur, montez sur quelque arbre que ce sanglier ne vous fasse mal et m'en laissez convenir !» s'exclama Raymondin. « Par ma foi, dit le comte, ne plaise à notre seigneur que je te laisse à telle aventure !» répliqua l'autre. Et quand le neveu entendit cela, il s'en alla se mettre au devant de la bête, par bonne volonté de la tuer. Mais celle-ci se détourna de lui et alla vers le comte. Emery, qui connaissait la chasse, s'apprêta à enferrer l'animal de la pointe d'un épieu qui tant fut aigu, mais le sanglier esquiva et vira le comte à terre, à genoux. Aussitôt vint Raymondin, courant par derrière, qui frappa le sanglier du tranchant de sa lame, laquelle s'échappa par-dessus le dos du porc et atteignit le comte, qui était à genoux, tu t'en souviens, et le perça de part en part. « Eh bien, il n'est pas doué votre Raymondin, » ironisa l'apprenti. C'est que le cuir de l'animal était fort raide, imbécile. Ce fait, Raymondin frappa le porc à nouveau, tellement qu'il le mit mort à terre. Et puis, il vint au comte pour le prendre dans ses bras. Mais cela fut pour néant, car le comte était déjà mort. Mon Dieu ! Quand Raymondin aperçut la plaie et le sang en saillir, il fut moult merveilleusement courroucé. Et commença à crier en pleurant et gémissant fort. En faisant les plus grandes lamentations. Ah, fausse fortune, comment es-tu perverse que tu m'as fait oxyre celui qui parfaitement m'aimait et qui tant de bien m'avait fait. Eh Dieu, Père Tout-Puissant! Car oui, comme tous les imbéciles de ton acabit, Raymondin pensait que Dieu était pour quelque chose dans les malheurs des hommes. Où sera le pays où ce pécheur se pourra tenir? Car tous ceux qui entendront parler de cette méprise me jugeront et alors je mourrai de honteuse mort. Ah, terre, ouvre-toi et m'engloutis et me mets avec le plus obscur ange des enfers.
Il aurait vraiment dit tout cela ?
Demanda Robin, non sans une certaine moquerie. C'est ce que dit la légende. Mais cesse de m'interrompre, pauvre sot. Nonobstant, le jeune Raymondin, tout à sa douleur, décida de se détourner de ce pays, mit le pied à l'étrier, monta sur son cheval, et se partit au travers de la forêt, bien déconforté, chevauchant fort, et non sachant vers où. Menant tel deuil que c'était piteuse chose à voir, et même à raconter. Laissant sa monture aller à son bon plaisir, il chevaucha tant parmi la haute forêt qu'il s'approcha, environ la minuit, d'une fontaine nommée la Fontaine de Soif.
Ah, la fameuse !
D'aucuns la nomment aussi la Fontaine de Fées. Pour ce que plusieurs merveilles y furent plusieurs fois advenues au temps passé.
Et où est-elle cette fontaine ? Près d'ici ? Elle existe vraiment ?
Nous n'en savons rien, Robin. Nous n'en savons rien. Mais puisque l'histoire dit qu'elle est, alors elle est. Comme le dit Socrate dans le Phèdre de Platon au sujet du mythe de Borée, nous n'avons guère le temps de chercher la véracité.